7h36, la revue de presse internationale avec vous, Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et dans la presse internationale, Laura, ces ventes d'armes américaines à Israël, des ventes qui sont faites en toute discrétion.
Oui, c'est le Washington Post qui publie une enquête et révèle plus de 100 ventes d'armes à l'État hébreu approuvées et livrées par les États-Unis depuis le 7 octobre. Des milliers de munitions guidées, de bombes de petit diamètre, des bombes anti-bunker, d'armes légères et autres armes létales. Des ventes en toute discrétion, explique le quotidien américain, et pour cause, chacune de ces 100 transactions, on les appelle dans le jargon administratif américain des FMS, Foreign Military Sales, traduisées ventes militaires à l'étranger. Chaque vente, donc, reste en dessous d'un certain montant qui obligerait l'exécutif américain à en informer le Congrès. Autrement dit, aucune de ces ventes n'a été soumise au débat public. Le Washington Post rappelle que pour les deux grosses ventes d'armes à Israël connues jusque-là depuis le 7 octobre, Joe Biden avait déjà réussi à contourner le Congrès américain. Il s'agissait en l'occurrence d'une première vente pour 106 millions de dollars d'obus et de chars et d'une seconde d'un montant de 147,5 millions de dollars de composants nécessaires à la fabrication d'obus. C'était en décembre dernier. Et pour ces deux ventes, l'administration Biden avait invoqué des pouvoirs d'urgence pour contourner l'obligation de consultation du Congrès en vertu de la loi sur le contrôle des exportations d'armes. Concernant la centaine de vente, c'est une manière extrêmement troublante d'éviter la transparence et la responsabilité sur une question très médiatisée, analyse dans le Guardian Harry Tolani du Centre de réflexion sur la politique internationale, un think tank américain. La spécialiste ajoute qu'en exploitant cette faille, l'administration Biden suit les traces de son prédécesseur. Ils empruntent beaucoup au manuel de Trump pour échapper au contrôle du Congrès, selon elle. Le Guardian rappelle qu'entre 2017 et 2019, l'administration Trump avait effectué 4221 transferts d'armes en dessous du fameux seuil vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pour une valeur totale estimée à plus de 11 milliards de dollars. Bref, la grande majorité de l'arsenal israélien provient donc des États-Unis, poursuit le Washington Post, et on parle là d'un nombre très élevé de ventes sur une période assez courte, selon Jérémy Konindik, ancien haut responsable de l'administration Biden et actuel président de l'ONG Refugees International. De quoi suggérer, selon lui, que la campagne militaire israélienne ne pourrait pas se maintenir sans ce niveau de soutien américain.
The Biden administration has been under pressure to use U.S. military assistance as a leverage.
L'administration Biden est sous pression pour utiliser cette assistance militaire comme levier pour obtenir certaines choses de la part d'Israël, explique John Hudson, l'auteur de l'enquête, que ce soit plus d'aide humanitaire à Gaza ou ralentir les opérations militaires dans l'enclave. Mais ce que notre enquête montre, poursuit le journaliste, c'est qu'il y a un afflux constant d'aide militaire à Israël, alors même que les États-Unis ont publiquement exprimé des réserves sur la manière dont Israël fait la guerre. Voilà donc tout le paradoxe américain, car les États-Unis ne font pas qu'exprimer des réserves, ils envoient de l'aide humanitaire aussi. 4 bateaux de l'armée américaine ont quitté hier une base de Virginie avec à leur bord une centaine de soldats et l'équipement nécessaire pour construire un port temporaire à Gaza. Tandis que les largages d'aide par plusieurs pays, dont les États-Unis sur l'enclave palestinienne, se multiplient. De l'aide empaquetée, suspendue à des parachutes et qui sont censées atterrir sur les plages gazaouis. Une mascarade selon le site libanais d'Araj qui qualifie ces opérations de théâtrales et inhumaines. Les largages aériens sont coûteux, chaotiques et conduisent généralement à ce que les mauvaises personnes reçoivent l'aide, selon un spécialiste de l'aide humanitaire à la BBC. La chaîne britannique cite un rapport du Programme alimentaire mondial datant de 2021 qui rappelle que ces largages coûtent 7 fois plus cher que l'aide acheminée au sol. Ils sont considérés comme un dernier recours à utiliser uniquement lorsque des options plus efficaces échouent. Or, parmi ces fameuses options plus efficaces, certains travailleurs humanitaires comme Scott Paul d'Oxfam américain, cité par la BBC, ont bien une petite idée. Au lieu d'effectuer des largages aériens aveugles sur Gaza, les États-Unis devraient interrompre le flux d'armes à destination d'Israël qui sont utilisées dans des attaques aveugles.
Sur les côtes américaines, cette fois, Laura, plusieurs villes sont fortement menacées d'inondations à l'horizon 2050.
Sur la côte atlantique particulièrement, mais pas que, 32 villes pourraient bien se retrouver sous l'eau, parmi lesquelles San Francisco, Boston, Boston ou encore la Nouvelle-Orléans. La revue Nature s'intéresse à ce phénomène étudié par une équipe de scientifiques de l'université Virginia Tech. Un risque d'inondation non pas à cause de la hausse du niveau de la mer, en tout cas pas seulement, mais à cause de l'affaissement des sols. Les chercheurs ont travaillé à partir d'images satellites des côtes, explique le New York Times, qui rappelle que près de 40% des Américains vivent sur le littoral. Et le problème est d'autant plus préoccupant qu'actuellement, le calcul du risque de submersion des villes ne prend pas en compte l'affaissement des sols. Or, cet enfoncement des villes est dû à l'activité humaine, explique The New Scientist, à cause notamment de l'extraction des ressources du sol, telles que l'eau et les combustibles fossiles, qui entraînent un tassement de la terre. Le pompage des eaux souterraines fait qu'Atlantic City, par exemple, s'enfonce plus vite que New York, alerte un climatologue dans le New York Times. Certaines villes tentent alors désespérément de retarder les conséquences déjà visibles. On apprend par exemple dans The Daily Beast qu'à Salisbury, dans le Massachusetts, 500 000 dollars ont été dépensés pour déposer 14 000 tonnes de sable et tenter de protéger les maisons du front de mer. 14 000 tonnes de sable qui ont été emportées par l'océan Atlantique en seulement 3 jours.
Merci Laura Dulieu pour cette revue de presse internationale. Ils sont là, ils ont emporté avec eux leurs livres, des papiers. Voilà, c'est devenu une sorte de bibliothèque, ce studio. Deux philosophes pour évoquer le débat sur la fin de vie. Frédéric Worms et Jacques Ricot dans quelques secondes.